Good Morning Market, le club de la bourse.
8h42 sur BFM Business, Marc Fiorentino est arrivé. Ça va Marc?
Oui, franchement, quand je viens ici, je suis toujours en pleine forme.
Ah, Étienne Brack est également avec nous. Vous allez être gentil avec Étienne qui a un peu peur. On va également parler des IPO géants en son, Mike Spexix, donc qui va entrer en bourse la semaine prochaine. On va parler fiscalité en France et je voudrais vous faire écouter, parce que j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, l'audition hier de Pierre-Édouard Sterrin qui était au Sénat et qui a parlé de son exil fiscal. Il se qualifie lui-même d'exilé fiscal. Écoutez ce qu'il raconte sur l'argent qu'il conserve et comment il réinvestit.
Je suis ce qu'on appelle encore aujourd'hui un exilé fiscal. Sur ce sujet-là, peut-être juste en quelques mots, depuis 15 ans, depuis bientôt 15 ans, j'économise entre 100 000 et 200 000 euros par an d'impôts en vivant en Belgique plutôt qu'en vivant en France. Donc j'ai économisé de 3 millions d'euros depuis que je suis parti en Belgique, en sachant que j'ai redistribué, ça a été évoqué par mes associés il y a de cela quelques jours, 150 millions d'euros en France à des projets d'intérêt général ou à des projets métapolitiques.
Quand vous entendez Pierre-Édouard Sterrin faire le calcul, alors il est vraiment transparent sur ce qu'il fait, qu'est-ce que ça vous inspire Marc? En fait, il préfère organiser son argent comme il veut et ne pas faire en sorte que ça soit dans des impôts où il ne sait pas où ça va.
Ouais, moi je crois que c'est un choix personnel que je respecte, que par exemple que je n'ai pas fait, que j'ai décidé de ne pas faire. Mais je pense que moi je pense que ça va au-delà du problème fiscal. Très sincèrement, quand je réfléchis à partir ou rester, ou quand autour de moi les entrepreneurs cherchent à partir ou rester, ce qui vient en premier, c'est pas forcément l'aspect fiscal.
C'est
l'environnement, c'est-à-dire c'est plusieurs choses. D'abord le sentiment d'avoir un déclassement qui est de plus en plus fort, déclassement qu'on voit dans les chiffres économiques, macroéconomiques. C'est de la macro là, on n'est même pas dans le ressenti, on est dans le PIB par habitant, c'est le deuxième élément, c'est la sensation de finalement de pédaler un peu pour rien. C'est-à-dire que très clairement, quand on regarde une fiche de paye d'un de nos employés ou un de nos salariés et qu'on voit l'écart entre ce que ça coûte à l'entreprise, tout ça, ça fait un peu café du commerce, mais c'est quand même une réalité quotidienne. Tous les mois, on est toujours surpris quand on regarde les fiches de paye de nos salariés de voir l'écart délirant, deux fois et demi ce que coûte l'entreprise par rapport à ce que touche. Donc ça, c'est un deuxième élément. Et puis le troisième élément, ce sentiment terrible pour à la fois les entrepreneurs et puis tous les gens qui sont dans une certaine forme de, j'ai pas envie de dire de capitalisme, mais d'économie libérale, d'être dans un pays dans lequel on est de plus en plus opposé à cette économie libérale, avec l'émergence de nouvelles générations, dont les Gen Z, dont on dit aux États-Unis qu'elles sont de plus en plus socialistes. Et c'est un peu le cas aussi en France. Et donc, se retrouve dans un environnement où on se dit finalement... Et c'est très symptomatique, à chaque fois que je voyage à l'étranger et que je parle avec des gens qui entreprennent à l'étranger, je m'aperçois qu'en fait, on parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire, eux, ils sont 100% focalisés business. C'est-à-dire qu'en fait, ils comprennent même pas notre discussion. Nous, on passe la moitié de notre temps à dire qu'est-ce qui va se passer en 2027. Et depuis la dissolution, on est coincé. Et il y a la problématique. Là, je regarde le truc. Je vous prends un exemple ponctuel. Les discussions qu'il y a sur le cumul emploi-retraite. On a un truc qui fonctionne super bien. Et puis, on commence à dire, finalement, on va limiter le plafond de la retraite touchée pour pas permettre... C'est quoi ? Alors qu'on a un problème de travail des seniors. Donc, vous voyez, on a ce sentiment qu'on passe la moitié de notre journée, quand on est entrepreneur ici, à s'occuper de choses dont on ne devrait pas s'occuper. Et donc, moi, je pense que l'aspect...
C'est pas pour 150 000 euros qu'on part, c'est parce que c'est déprimant.
Que l'argument est petit, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le sujet, quoi. Alors après, effectivement, si on pèse 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, je pense qu'il y a des moyens d'optimisation fiscale qui sont très importants. Mais je pense pas que ce soit ça le sujet. Le sujet n'est pas un sujet d'optimisation fiscale, ni d'exil fiscal, ni d'évasion fiscale. Le sujet, c'est un sujet d'évasion sociale et d'exil social et d'exil sociétal.
Alors, je ne vais pas vous remonter le moral en vous disant qu'il n'y a pas beaucoup d'IPO en Europe. Vous êtes au courant, notamment en France. Par contre, aux États-Unis, on s'attend quand même à SpaceX. Non, mais je fais ce que je peux, moi, pour vous soutenir. Ouais. Mais là, ce n'est pas en vous parlant de SpaceX, c'est des méga IPO que je vais vous remonter le moral. Étienne, les chiffres sont pharaoniques.
Oui, juste délirant. Hein. C'est dans 7 jours, c'est vendredi prochain, la première séance de SpaceX, valorisation attendue 1 800 milliards. Pour rappel, cette entreprise ne gagne pas d'argent, Elle a perdu quasiment 5 milliards en 2025, encore 4 milliards en début d'année. Un chiffre d'affaires, ça va se payer 94 fois. Et au milieu de tout cela, eh bien, il y a une euphorie qui est juste énorme. Tous les grands banquiers de Wall Street sont en train de faire des roadshows pour essayer de convaincre les investisseurs. Et puis surtout, vous aurez les particuliers qui seront au rendez-vous, hein, puisque Elon Musk a bien compris que les investisseurs particuliers ne regardaient pas les niveaux de valorisation. Et il va alors accorder un tiers des actions disponibles pour cette IPO.
Quand il y tient, Elon Musk, à ce que ça soit ouvert au retail, Marc?
Ouais, il y tient, ce que dit Étienne est très juste, c'est-à-dire il y tient parce qu'il sait très bien que pour faire le buzz et pour qu'il y ait une bulle autour de SpaceX et pour qu'il y ait un engouement autour de SpaceX, il faut qu'il y ait des particuliers. Alors on va savoir dans quelques mois si les particuliers seront les dindons d'une farce intergalactique ou si au contraire ils auront touché leur billet de loto. C'est la première fois, hein, comme tu le disais, c'est la première fois qu'on a un pourcentage qui est aussi important, plus de 25% qui sera dédié au public. Généralement la norme, il faut savoir que c'est 5% et puis on peut monter jusqu'à 10%. Donc là on est très clair. Et on voit déjà, d'ailleurs c'est très intéressant, le Financial Times racontait ce matin, que déjà en pré-IPO, c'est la première fois, hein, parce que c'est pas simplement l'IPO, il faut savoir que les actions de SpaceX, les actions d'Anthropix, les actions d'OpenAI se traitent maintenant beaucoup sur des plateformes en pré-IPO, c'est-à-dire qu'il y a des salariés qui ont des actions gratuites, qui les revendent, enfin il y a un marché pré-introduction en bourse, et il paraît que c'est la folie complète et qu'on est au-dessus de valorisation de 1800 milliards. C'est-à-dire qu'il y a gens aujourd'hui qui achètent sur des plateformes des titres de SpaceX en pensant que ça va probablement, ou peut-être, hein, c'est possible, hein, côté 2300,
a priori, quand ça va arriver, ça va, dans les premiers jours, du coup, ça va booster. Ça ne veut pas dire que c'est les performances futures.
Très,
mais...
très difficile à déterminer. Les chiffres sont, Étienne le disait, les chiffres sont dingues. Et moi, ce qui me frappe aussi, hein, toujours pour revenir un peu sur le même sujet qu'on a abordé tout à l'heure, c'est vrai que vous n'avez pas des sujets qui me remontent le moral avant.
Je suis désolée.
Mais c'est vraiment, ça fait 40 ans ou 45 ans que je suis sur les marchés, j'ai travaillé beaucoup dans des entreprises américaines et des banques d'affaires américaines, et franchement, j'ai jamais eu le sentiment d'être aujourd'hui sur une autre planète. C'est-à-dire qu'avant, j'avais l'impression que, bon, Paris était une place financière, l'Europe, on était, il y avait Londres, il y avait New York, on était un peu décalés, ils étaient devant nous, ils étaient très forts. Mais là, j'ai l'impression que c'est même plus qu'on est dans la course. C'est-à-dire, et c'est même pas pour faire du bashing européen, j'ai l'impression qu'on n'est plus sur la même planète, parce que l'unité, tu le rappelais tout à l'heure, l'unité, c'est devenu le 1000 milliards de dollars. C'est-à-dire, vous apercevez que toute la journée, on parle de 1000 milliards de dollars. Et puis, quand Alphabet va lever de l'argent, c'est 85 milliards de dollars. L'autre va lever 75 milliards. La valorisation, c'est 2000 milliards. Anthropix, c'est 1000 milliards. C'est-à-dire que l'unité de compte, c'est 1000 milliards. 1000 milliards de dollars, c'est voilà le montant des investissements dans l'IA sur une année, enfin tout ça. Et puis à côté, j'ai l'impression que nous, et quand je regarde effectivement les IPO, je l'ai dit, on a eu deux IPO à Paris depuis le début de l'année, c'est des micro-caps, c'est très bien, hein, mais bon, il faut quand même faire quelque chose, quoi. Il faut bouger, alors les introductions...
Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, je pense franchement qu'il faut que les institutions, d'abord, il faut que Ronex bouge, et je pense que
mais
Ronex
il faut plus d'IPO, c'est-à-dire que c'est plus sain d'avoir des entreprises qui ouvrent leur capital au public.
Mais évidemment, mais c'est-à-dire, je le répète tout le temps, regardez les 10 premières fortunes mondiales, c'est 10 entrepreneurs de boîtes cotées. Enfin, c'est quand même une évidence. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, même si c'est pour des raisons purement vénales, allez vous introduire en bourse. Enfin, ça fait partie du jeu. C'est très bien le private equity, c'est pas une guerre du private equity, mais pour le private equity, la bourse aussi, c'est une sortie. Aujourd'hui, le private equity est coincé, ils n'arrivent pas à sortir leurs dossiers parce qu'ils ont acheté trop cher des dossiers il y a 2 ou 3 ans qui se portent pas très bien, et donc ils sont complètement bloqués. Mais à aucun moment ils envisagent de se dire, parce qu'ils ont démoli la bourse pendant des années, ils ont à aucun moment ils se disent, bah tiens, c'est une sortie. Bah,
je pense mais on que entend tout avec Étienne, c'est trop compliqué, manque de transparence, on a ça Étienne sur le plateau.
Mais c'est complètement faux, et je pense qu'il y a beaucoup de responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités des autorités de place. Il y a, je pense, et la BPI est en train de bouger sur sa position, bah, la BPI a favorisé beaucoup le private equity, beaucoup le capital risque. pas trop la bourse. C'est en train de changer. Ils ont créé un fonds dédié aux petites capitalisations. Je salue cette initiative parce que c'est une très belle initiative. La Caisse des dépôts a créé un fonds qui investit dans des fonds small cap, un fonds de 500 millions. Bravo, c'est une initiative.
Et c'est pas un problème de fonds, qu'on manque de capitaux et du coup...
Je pense que, vous savez, par exemple, il y a 10 ans, le capital risque en France, ça n'existait pas. Ouais. Si la BPI n'avait pas arrosé largement des fonds de private equity et de capital risque, il n'y aurait jamais eu capital, on n'aurait pas eu la French Tech. Donc ça veut dire qu'on peut changer les mentalités. Maintenant, il faut simplement dire aux gens et monter des opérations de place, ouvrir les opérations au public. Aujourd'hui, Étienne le sait, on a des millions d'actionnaires individuels qui sont arrivés à la bourse après l'introduction de la Française des Jeux, après le Covid.
Bah, il reste une minute juste. Étienne, il y a peu d'opérations qui sont ouvertes au public aujourd'hui sur Next.
Bah, d'autant plus que le seuil a été abaissé pour les particuliers, Marc. Ça a quand même été un échec grandissant ces derniers mois. C'est-à-dire que l'AMF a revu la part des blocs pour les particuliers lors des introductions en bourse.
Oui, mais aujourd'hui, je pense qu'on a la possibilité, et j'espère que ça va bouger dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent, d'ouvrir des opérations au public, et je pense que ça créera un engouement.